Radio Okapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. Signature hier à Kinshasa d'un accord de principe entre la RDC et une entreprise américaine. Il s'agit d'un partenariat stratégique visant à ouvrir la voie aux investisseurs américains dans le secteur minier congolais. La cérémonie a été présidée par le président Félix-Antoine Tshisekedi à la Cité de l'Union africaine. Et puis, les filles enceintes sont désormais autorisées à poursuivre leur scolarité. Cette décision du ministère de l'Éducation nationale est loin de faire l'unanimité. Pour en parler, nous recevons le professeur Roland Vele Mukelenge, docteur en philosophie politique et diplômé en sociologie politique des universités coréennes. Il pense que cette mesure doit carrément être retirée. Encore une fois, bonjour et bienvenue à ce bulletin, plutôt à ce journal présenté par Belinda Bosuma. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé hier jeudi à la Cité de l'Union africaine la cérémonie de signature d'un accord de principe entre le gouvernement congolais et l'entreprise américaine Cobalt Metals sur l'exploration minière en République démocratique du Congo. Selon la présidence de la République, c'est le ministre congolais des Mines, Kizito Pakabomba, et le directeur général de Cobalt Metals en RDC, Benjamin Katabuka, qui ont procédé à la signature de cet accord qui scelle un partenariat stratégique visant à ouvrir la voie aux investissements américains dans le secteur minier congolais. Des précisions avec vous, Grâce Hamzati.
Le directeur général des Cobalt Metals en RDC explique que cet accord s'inscrit dans le cadre des accords entre les États-Unis d'Amérique et la RDC pour la paix et la prospérité. Nous espérons que cette porte qui est ouverte par le gouvernement congolais pour les investissements américains va nous conduire à d'autres investissements des USA en RDC, déclare Benjamin Katabuka. Selon lui, l'accord signé va s'exécuter en trois volets essentiels. L'entreprise s'engage à venir investir au Congo dans la numérisation des données géologiques, l'exploitation en utilisant la technologie assez avancée, notamment l'intelligence artificielle, et le développement minier des projets de lithium qui se situent à Manono dans la province du Tanganyika. Il indique que la RDC a énormément de données géologiques qui ne sont pas exploitées pour l'intérêt du pays. Benjamin Katabuka a fait savoir que Cobalt Metals veut venir financer la numérisation des dites données afin de les rendre accessibles à tout le monde pour attirer les investissements au Congo dans les secteurs miniers. Il affirme que l'objectif de Cobalt Metals est d'engager plus de Congolais, de les former, de les rémunérer et de participer aussi à la construction des infrastructures pour le bien-être de la population.
Depuis plusieurs semaines, la RDC se trouve au cœur des deux dynamiques diplomatiques parallèles, menées à des milliers de kilomètres l'une de l'autre, mais convergeant vers un même but, celui de rétablir la paix dans l'est du pays et de poser les bases d'un processus politique durable. Ces échanges ont eu pour objectif de renforcer la coopération bilatérale et les mécanismes de travail conjoint. Les enjeux de ces rencontres avec vous, Jean Gando.
À Doha, le processus est conduit sous la médiation du Qatar avec l'appui des États-Unis. Massad Boulos, envoyé spécial américain, poursuit sur place ses consultations pour faire avancer les discussions entre la RDC et le Rwanda en prélude de la signature définitive de l'accord à Washington en présence des présidents Trump, Félix Tshisekedi et Paul Kagame. En parallèle, des pourparlers se poursuivent entre le gouvernement congolais et les représentants de l'AFC M23 en vue d'une déclaration des principes menant à un accord de paix. Pendant ce temps, à Kinshasa, la diplomatie bilatérale s'active également. La vice-ministre des Affaires étrangères, Gracia Yambakazadi, a reçu hier jeudi 17 juillet le chargé d'affaires de l'émirat du Qatar en RDC. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération entre les deux pays. Sur un autre front, la société civile congolaise appelle à une médiation africaine unifiée, inclusive et légitime. Un message porté jeudi à Kinshasa lors d'une rencontre avec Catherine Samba-Panza et Salewo Kozeode, deux anciennes chefs d'État africaines engagées dans le panel de facilitation pour la paix en RDC. Entre diplomatie régionale, internationale et mobilisation de la société civile, les efforts convergent vers une même ambition, faire taire les armes et reconstruire une paix durable en République démocratique du Congo.
Autre nouvelle, rendons-nous dans le territoire de Beni. La population du quartier Kongo-Esika, située en bordure du parc national des Virunga, dans la cité frontalière de Kasindi, garde espoir. Après le passage du gouverneur le mercredi, ses habitants qui vivent un calvaire quotidien attendent des actions concrètes de l'autorité provinciale, disent-ils. Pour Serge Kalenga, coordonnateur de la nouvelle société civile dans cette région, il est temps que le gouverneur s'implique réellement dans ce dossier sensible. Serge Kalenga est joint par Marc Marofimbo.
De la part du gouverneur des provinces, nous, étant que acteurs de la société civile, nous avons besoin de voir le gouverneur s'impliquer dans ces dossiers Kongo-Esika. D'abord, prendre la décision de mettre à terme toutes les décisions prises par son prédécesseur afin de pouvoir autoriser ou de pouvoir suspendre la commission qui travaillait dans les dossiers Kongo-Esika. Et de mettre en place une nouvelle commission afin de pouvoir tabler sur cette situation et de mettre fin à ces dossiers Kongo-Esika. Nul n'ignore qu'actuellement, la démographie du poste frontalier de Kasindi continue toujours par s'élargir. La population naît du jour au lendemain et nous sommes en train de manquer là où nous pouvons héberger, se déplacer qui nous viennent de Goma, qui nous viennent de Rutshuru et dans des parties occupées aujourd'hui par le rebelle du M23.
Rappelons que lors du dernier forum sur les tensions entre riverains et responsables du parc national des Virunga, une commission avait été mise en place par l'autorité provinciale. Ce quartier reste marqué par de nombreux cas d'arrestations, des destructions et des pertes en vies humaines. Les avis restent partagés à la suite de la circulaire de la ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté ordonnant le maintien des filles enceintes dans les établissements scolaires. Si certains sont persuadés que cette décision vient mettre fin à l'injustice sociale, d'autres pensent qu'exclure les élèves enceintes des écoles était une bonne punition pour redresser les concernés. Quelques Kinois se sont exprimés à ce sujet. On les écoute au micro de Rachel Kiesembangu.
Je suis totalement d'accord avec cette circulaire du secrétaire général à l'éducation nationale parce que nous voyons aussi les taux d'analphabétisme chez les jeunes filles et la déperdition scolaire sont élevés. C'est parce que lorsque une jeune fille est enceinte, il a la honte. Il y a même des écoles qui prennent des décisions que cette fille ne doit plus continuer les études alors que c'est faux.
On a toujours milité pour que les filles ne soient pas discriminées parce qu'on dit fille-mère. Mais on ne dit pas garçon-père. Donc, il faut que le droit soit pour tout le monde. Il ne faut pas qu'il y ait des discriminations, qu'il y ait des inégalités. Quand une fille tombe enceinte et qu'on puisse la radier de l'école, ça signifie que vous brisez aussi son avenir, sa carrière. Donc, il faut laisser la fille évoluer pour lui donner la possibilité aussi d'évoluer comme les jeunes garçons. Parce que l'acte a été fait entre un homme et une femme.
Je suis contre parce qu'il y a certaines filles qui se méconduisent à la maison. Les parents peuvent beau parler, mais l'enfant n'écoute pas. Et quand l'enfant tombe enceinte, pour moi, c'est comme une conséquence à la désobéissance des parents. Pour moi, la fille devait assumer ses responsabilités. Elle devait arrêter les études jusqu'à ce qu'elle accouche et puis elle va continuer les études.
Dans le même cadre, exclure une fille de l'école parce qu'elle est enceinte, c'est lui infliger une double sanction. Le ministre de la Communication et Médias réagissait ainsi à la question d'un journaliste hier jeudi à Kinshasa lors du briefing de presse co-animé avec le directeur général de l'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain ANCR. Pour Patrick Mouyaya, la RDC est signataire de plusieurs conventions internationales, dont celle qui proscrit toute forme d'exclusion de l'enfant à l'école. On écoute le ministre Patrick Mouyaya dans ses propos recueillis par Blaise Shindani Kambala.
Vous dites que ces enfants ne doivent pas aller à l'école, vous les discriminez. Non seulement que notre propre constitution dans ce qu'elle stipule est violée, mais n'oubliez pas que la République démocratique du Congo est signataire de plusieurs conventions internationales. Il existe une convention de droit de l'enfant qui proscrit toute forme d'exclusion de l'enfant à l'école. Il ne faut pas oublier alors, parce qu'une élève, nous partons du postulat qu'elle est mineure, peut-être qu'elle a été victime. Les bourreaux, il est où? On en fait quoi? Les bourreaux, là, qui est derrière ces grossesses. Alors, je veux bien comprendre les positions idéologiques de l'Église, mais ici, il faut faire attention. Parce qu'aujourd'hui, à la différence de notre époque où nous n'avions que nos libertés, il faut admettre que nos enfants ont accès à une masse d'informations en même temps. C'est pas seulement les réseaux sociaux. Alors, est-ce que nous devons continuer à être conservateurs, entre guillemets, hypocrites, et n'est pas aller donner une réponse à une problématique sociale qui est vécue? Il faut pas se tromper. L'Église, qui est notre partenaire dans la formation ou dans l'éducation, doit aussi, sur certains sujets, regarder comment évolue le temps. Non pas pour en faire l'apologie, mais pour être sûr que nous avons donné à nos enfants la possibilité de se prémunir ou de se protéger.
L'intersyndicale de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté Maniema 1 dénonce le retard accentué de la paie des frais de fonctionnement et la prime de gratuité des enseignants du primaire. Selon le président de cette structure, cette situation dure depuis 4 mois. Chembe Lopondé Raphaël fait savoir que cette situation handicape le bon fonctionnement des écoles. L'intersyndicale plaide pour l'implication des autorités compétentes. Chembe Lopondé Raphaël est au micro de Florence Kizalunga.
Ça fait pratiquement 4 mois que les salaires, les frais de fonctionnement ainsi que la prime de gratuité ne viennent plus au même moment comme ça se faisait avant. Ça n'arrive pas au même moment. Ça arrive des fois que ça handicape vraiment les responsables des écoles. Ils ne savent pas comment même acheter des crayons. Alors qu'à jadis, les frais de fonctionnement, y compris la prime de gratuité, venaient au même moment. Mais depuis un temps, le gouvernement a cessé d'envoyer au même moment. Alors que nos amis de Maniema 2, ils sont payés par la Caritas, on les sert au même moment. Même nos camarades qui sont payés par la Rabobank. Seulement les enseignants qui sont payés par la Banque Tembe, que nous avons remarqué depuis un laps de temps, c'est mauvais traitement. Nous avons déjà entrepris beaucoup de démarches pour en savoir les causes, mais on n'arrive pas à trouver c'est quoi les problèmes. C'est ainsi que nous demandons au gouvernement de voir à quel niveau les problèmes se posent. Est-ce que c'est avec la Tembe? Est-ce que c'est le gouvernement qui ne disponibilise pas l'argent à la Tembe? Que le gouvernement puisse intervenir.
Dans l'actualité aussi, l'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain ANSER a réalisé 22 projets sur 65 recensés à travers le pays en 5 ans. C'est ce qu'affirme le directeur général de cet établissement public, Damien Twambilangana, l'a fait savoir hier à Kinshasa lors du briefing de presse co-animé avec le ministre de la Communication et Médias. Il affirme cependant que ANSER éprouve des difficultés pour achever ses projets faute de moyens financiers. On écoute Damien Twambilangana dans ses propos recueillis par Blaise Shindani Kambala.
Le défi que nous avons pour les 5 ans à venir, c'est d'atteindre 52%, c'est-à-dire nous sommes appelés à pouvoir développer plus ou moins 8000 mégawatts. Et cela est possible. Je voudrais tout simplement dire que nous avons une bonne expérience et des grandes capacités d'atteindre cet objectif. Nous allons vraiment travailler énormément sur la combinaison de tous les facteurs qui peuvent permettre que nous puissions atteindre l'objectif. Et lorsque je parle de 8000 mégawatts, nous atteignons à peu près 40 millions de personnes, ça veut dire plus ou moins 5 millions de ménages. C'est un target, c'est un objectif qu'on peut atteindre à la lumière de ce qu'on a mis en place comme stratégie. Mais encore une fois, c'est une combinaison de plusieurs facteurs. L'impact en fait que nous allons avoir, l'excellence l'a évoqué tout à l'heure, je vais peut-être m'arrêter là aussi, le ministère de la Santé a une cartographie de tous les centres de santé de la République, et nous, on a un programme santé. On est allé voir la possibilité de mutualiser les ressources pour que tous les centres de santé, particulièrement ceux plutôt qui ont déjà été construits dans le cadre du PD 145 territoire, que nous puissions les connecter soit à partir de nos centrales existantes ou alors dans le cadre de notre programme.
Le directeur adjoint de l'ANSER indique qu'au cours de cette période, ils n'ont bénéficié que de 50 millions de dollars, alors que la réalisation de tous ces projets nécessite 750 millions de dollars américains. La commune de Kimbanseki à Kinshasa a bénéficié mercredi des kits pour l'assainissement. C'est dans le cadre de la deuxième phase du projet de professionnalisation de la police pour la population et la paix, P4P, une initiative mise en œuvre par l'agence de la coopération japonaise JICA, ONU Habitat, la police nationale et le gouvernement congolais. Kimbanseki est la commune pilote pour l'expérimentation de ce projet. C'est un reportage de Babel Mpongo Masimango.
ce qui comprend un tricycle, une moto, une dizaine de chariots, des lampadaires, une dizaine de bacs poubelles, une vingtaine de pelles, des casques, des extincteurs, des gilets et autres. C'est pour aider à améliorer les espaces publics urbains au quartier Kisanto qui a été choisi comme site pilote à Kimbanseke. Un travail qui sera effectué par le Conseil local de sécurité de proximité, CLSP, sur place. Claude Albert Meche, chef de bureau RDC de ONU Habitat, donne le sens de cette cérémonie.
L'apport de ONU Habitat était d'apporter une contribution dans l'élaboration du plan local de sécurité et rendre opérationnel les CLSP en identifiant les points d'insécurité, d'insalubrité et en proposant des solutions. Cette cérémonie visait à mettre à disposition du comité local de Kimbanseke du matériel pour aller transformer le quartier en espace où il fait plus de sécurité.
Pour le représentant de la JICA, la deuxième phase du projet se poursuit.
En septembre, on va finir CKTP phase 2. On est en train de préparer les phases 3.
Mimi Biké, la représentante du gouverneur de la ville, appelle à bien utiliser ce matériel pour une bonne application du programme Kin Ezobonga. C'est la joie pour la chef de quartier qui s'en touche, la cite. Le manque de matériel de travail nous handicapait beaucoup. Maintenant que nous venons d'en recevoir, nous allons travailler pour rendre notre quartier propre.
Actualité internationale.
L'armée française vient d'achever son retrait du Sénégal, le dernier pays d'Afrique de l'Ouest où elle maintenait une présence permanente des troupes, ce alors que son influence régionale s'est affaiblie ces dernières années. La France s'est heurtée à l'opposition des dirigeants de certaines de ses anciennes colonies en Afrique pour ce qu'ils décrivent comme une approche humiliante et autoritaire du continent. L'armée française a remis le camp Gel, sa plus grande base au Sénégal, ainsi qu'une installation aérienne voisine au gouvernement sénégalais lors d'une cérémonie qui s'est déroulée dans la capitale Dakar. La cérémonie a marqué l'achèvement d'un retrait de 3 mois d'environ 350 soldats français du pays d'Afrique de l'Ouest qui a commencé en mars. L'armée française était présente au Sénégal, sachez-le, depuis l'indépendance de ce pays en 1960.
L'invité.
En RDC, vous le savez, les filles enceintes sont désormais autorisées à poursuivre leur scolarité. La décision est annoncée dans une note circulaire datée de lundi 14 juillet 2025 du secrétariat général intérimaire du ministère de l'Éducation nationale. La note lève toute mesure d'exclusion des filles enceintes du système éducatif dès lors qu'elles n'ont pas manifesté l'intérêt de quitter l'école. Mais cette mesure est loin de faire l'unanimité. Pour en parler, nous recevons le professeur Roland Vele Mukelenge, docteur en philosophie politique et diplômé en sociologie politique des universités coréennes. Il est avec Blaise Shindani Kambala.
Professeur Roland Vele Mukelenge, bonjour.
Bonjour.
Professeur, selon une note circulaire signée le lundi 14 juillet, les filles enceintes seront désormais maintenues dans leurs établissements scolaires. Comment appréciez-vous cette décision?
Il s'agit d'une décision apparemment salutaire pour les filles mères, mais si vous en faites une analyse dialectique, vous vous rendez compte très vite qu'il s'agit d'une décision suicidaire. Suicidaire dans la mesure où non seulement ce n'est pas que on refuse la stigmatisation, mais au contraire, au nom de la stigmatisation, on impose la stigmatisation. C'est ça les dessous de la carte de cette décision. Pourquoi? Tout simplement parce que les élèves à l'école sont régis par des normes, pas des règlements. Et tout élève qui commet une faute morale doit être puni. Et une élève qui est enceinte à l'école, n'est-ce pas, a violé les normes de l'école. Et donc, dès qu'elle viole les normes de l'école, elle doit être sanctionnée. Et donc, il n'y a pas à dire, voilà, parce qu'elle a fait ça, et les filles, tenant compte de sa situation des filles, il faut la garder à l'école. Non, l'école, je l'ai dit, a une dimension hautement morale. Au-delà de l'organisation matérielle et tout, c'est la dimension morale qu'il faut préserver. Et les autorités politico-administratives, qui sont l'État qui est l'organisateur de l'enseignement national, doit justement veiller à ce que cette dimension morale soit maintenue. Et cette décision vient justement saboter les efforts éthique dans notre pays.
Mais il n'y a jamais eu de loi qui interdise de renvoyer les filles enceintes. D'après vous, pourquoi les chefs d'établissement scolaire mettent-ils à la porte des filles enceintes quand on annoncer que certaines sont victimes de viols et autres du mariage précoce.
Non, mais d'abord, je vous dis que ce n'est pas seulement qu'on mette les filles dehors. Mais il y a une auto-exclusion. Déjà, sur le plan moral, les filles elles-mêmes parfois se disent « Dans mon état, je peux plus. » Elles partent. Ça, c'est un cas. Mais il y a d'autres cas aussi pour lesquels l'école doit interpeller parce que l'école doit veiller sur la moralité et de la fille et des autres qui sont là et même du personnel. Donc, c'est une mesure qui est tout à fait normale. Ça n'a rien à voir avec la discrimination.
L'ONG Foyer de développement pour l'autopromotion des personnes indigentes estime que l'application de cette mesure devrait être suspendue. Enfin, qu'en pensez-vous?
Ah oui, bien sûr que oui. Mais il y a des partenaires éducatifs. L'État ne fonctionne pas seul. Il y a des confessions religieuses, il y a des ONG, il y a plusieurs partenaires. La ministre devait convoquer les partenaires, discuter avec eux pour voir les conditions de faisabilité. Et la loi prévoit l'éducation non formelle, la création des écoles spécialisées. Et ça, c'est tout à fait important. Il faudra que l'on puisse placer ces élèves. Il faut d'abord suspendre, moi j'ai dit bien suspendre, leur participation aux activités scolaires, plutôt le faire revenir plus tard. Ça, c'est important pour sauvegarder ce qui nous reste à sauvegarder. Et ça, c'est très, très important. Et à la fin, on doit analyser pour voir dans quel contexte on peut le prendre, dans quel contexte on peut prendre telle décision ou telle autre. Mais j'ai comme l'impression que la ministre a fait ça seule.
Mais pour la NAPECO, donc l'Association nationale des parents d'élèves et étudiants du Congo, cette décision est la bienvenue car elle place les élèves, filles et garçons, sur les mêmes pieds d'égalité. Êtes-vous d'accord avec elle?
Je ne suis pas d'accord et j'ai dit, il faut dépolitiser toutes ces associations. Je crois que ces associations, c'est des déclarations graves. Alors je me demande s'ils sont vraiment des associations des parents. Parce que des parents conscients ne peuvent pas faire passer ce genre de décision.
Pourquoi pensez-vous que les élèves enceintes devraient être marginalisés?
J'ai dit que c'est pas de la marginalisation, c'est la sanction. C'est la sanction. Il faut sanctionner un garçon qui se bat à l'école, qui frappe un autre. Mais il est renvoyé dans des écoles sérieuses. C'est pas de la marginalisation. Une fille qui est grosse à l'école, c'est des antivaleurs. On ne peut pas parler de marginalisation. Voilà, c'est ça le problème. Il ne faudrait pas qu'on mette la femme comme un être qu'on doit traiter de manière spéciale. C'est un humain, c'est une élève, comme toutes les autres élèves.
Donc un élève garçon,
oui,
qui enceinte une fille, quand l'école est au courant, on les chasse de l'école.
Alors, je précise, ici, ce qu'on sanctionne souvent, c'est quoi? C'est les conséquences de l'acte. Vous comprenez? Les filles doivent avoir une conscience éclairée pour dire « Attention, ce que je suis en train de faire, les conséquences vont porter sur moi-même. » Parce que quand on fait les rapports sexuels, on est dans des lieux secrets. Mais les conséquences tombent sur la fille, malheureusement. Et donc, la fille doit prendre conscience que j'ai une grande responsabilité et je ne dois pas faire n'importe quoi parce que j'essaie de sanctionner. C'est une sanction, c'est pas une marginalisation.
Professeur Roland Vele Mukelenge, professeur des universités, je vous dis merci beaucoup.
Merci à vous.
Notre invité répondait aux questions de Blaise Shindani Kambala. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.